Vous écoutez, on lit pour vous.
Un jardin sur un toit, ouvert à tous. Un texte de Valérie Simard, paru le 26 septembre 2025 dans La Presse. Le premier jardin communautaire sur un toit a été inauguré au début de l'été 2025 à Montréal. La Presse l'a visité. Une faune inhabituelle rôde dans l'entrée de l'immeuble de condo, l'esplanade quartier, à l'ombre du pont Jacques-Cartier. Une femme en sort, le sourire aux lèvres, un bouquet de persil à la main, alors qu'une autre s'engouffre dans l'ascenseur et monte au 8e étage avec des outils de jardinage. Ce ne sont pas des résidents de l'édifice, mais plutôt deux jardinières des environs qui ont eu la chance d'obtenir une parcelle dans un potager peu commun. Inauguré au début de l'été 2025, au sommet du Courant, est le premier jardin communautaire sur toit à Montréal. On le dit « communautaire » parce qu'il n'est pas réservé aux résidents de l'immeuble où il se trouve. Pour y obtenir un jardinet, avec vue magnifique sur la ville, il faut s'inscrire sur la liste d'attente gérée par l'arrondissement de Ville-Marie. Ce partenariat public-privé est une réponse au manque d'espace disponible pour aménager des lieux d'agriculture urbaine dans une ville où les terrains vacants sont rares et la demande immense. Dans Ville-Marie, des citoyens attendent de 5 à 7 ans pour obtenir une parcelle dans un jardin communautaire. Le temps d'attente est similaire dans plusieurs autres arrondissements. Contrer l'insécurité alimentaire. Ce n'est pas un hasard si ce projet voit le jour dans le quartier Centre-Sud, remarque David Deschênes, directeur principal du développement chez Prével, le promoteur immobilier derrière l'esplanade quartier, en partenariat avec TGTA. On a identifié le Centre-Sud comme un désert alimentaire, constate-t-il. Il y a de gros enjeux de précarité. On a essayé de trouver la meilleure façon de contribuer à améliorer le sort du quartier. L'esplanade quartier est un projet en 6 phases regroupant des condos, des logements locatifs, des bureaux et des commerces, ainsi que certains locaux occupés par des organismes communautaires. Les inquiétudes de citoyennes étaient vives à propos du développement de ce grand terrain, autrefois occupé par une gare de triage ferroviaire, où s'était installé le chapiteau de Cavalia en 2018. En réponse aux craintes d'embourgeoisement chez les résidents, Prével a mis de l'avant son désir d'y intégrer le vivre ensemble et l'éco-responsabilité. Avant la construction de l'immeuble de condo, un jardin éphémère a d'abord été aménagé sur le site, puis un espace potager avec serre sur le toit de la maison de projet. Commencer par ces petits projets a permis aux promoteurs de jeter les bases d'un jardin plus ambitieux et permanent sur le toit de l'immeuble de la phase 2. Ce potager compte 65 lots, dont 5 munis de bacs de jardinage pour les personnes à mobilité réduite. Quelques espaces ont été attribués au Y des femmes qui a ses bureaux dans l'immeuble et au Carrefour solidaire qui écoule ses récoltes dans son épicerie de quartier. Il s'agit du plus grand jardin communautaire de l'arrondissement de Ville-Marie, précise Alban Marais, du Laboratoire sur l'agriculture urbaine, AU/LAB, qui conseille l'arrondissement pour ce programme. La Ville de Montréal veut augmenter la superficie cultivée de 120 à 160 hectares sur son territoire. Cette cible, annoncée dans sa stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026, repose principalement sur des projets d'envergure, indique le bilan de mi-parcours publié en mai dernier. Elle ne sera pas atteinte d'ici 2026, mais elle pourrait facilement être dépassée, une fois que seront terminés les travaux du parc agricole du Bois de la Roche, un des secteurs du Grand Parc de l'Ouest. Des avantages et des contraintes. Jardiner sur un toit vient avec des contraintes. Comme il n'y a que 30 cm de terre, impossible d'y planter des espèces ayant de profonds systèmes racinaires. Tout ce qui est très populaire dans les jardins, soit les fraisiers, les tomates, les courges, les haricots, les melons, le kale, est permis, précise Alban Marais. Lors de notre visite à la fin du mois d'août, les récoltes battaient leur plein, mais certains lots paraissaient plus dégarnis. La sécheresse qu'a connue Montréal cet été a fait mal au potager sur toit. Il y a clairement des défis, constate Franck Delage, membre du comité de jardiniers. Nous sommes en plein soleil, il y a énormément de vent, donc ça assèche beaucoup la terre. Mais celui qui compte plusieurs années d'expérience dans les jardins communautaires ne se décourage pas. Franck Delage souligne. Il faut apprendre. Jardiner sur un toit, ce n'est pas comme jardiner en pleine terre. On ne va pas choisir les mêmes variétés. Il a fallu amender la terre. Il faut arroser plus souvent. L'équipe DO/LAB réfléchit à la possibilité d'installer un système d'arrosage automatique. Il y a aussi le bruit du système de ventilation de l'immeuble qui nuit à la quiétude des lieux, mais la pose de cloisons anti-bruit est prévue. Chez les jardiniers, Franck Delage observe des avis partagés. Certains envisagent de retourner sur la liste d'attente pour intégrer un autre jardin communautaire, mais d'autres se réjouissent de l'absence de rongeurs et de la rareté des mauvaises herbes. Pour Prével et TGTA, le plus grand défi a été d'ouvrir au public un bâtiment privé et de rassurer les occupants de l'immeuble et quant à la sécurité. De plus, structurellement, ce n'est pas construit pareil. Il y a eu des surcoûts, expose Sophie Laverdure, directrice de projet chez TGTA. Le groupe Prével a mis 250 000 $ dans le projet. La Ville de Montréal a fourni 75 000 $ et le gouvernement fédéral 275 000 $ par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Prével et TGTA louent l'espace à O/LAB pour la somme symbolique d'un dollar. Notre hypothèse est que cela revient beaucoup moins cher d'implanter des parcs et des jardins communautaires sur toit plutôt qu'au sol, où il y a des frais d'acquisition de terrain et de décontamination, avance le directeur Intervention et politique publique DO/LAB, Jean-Philippe Vermette. Ça reste qu'on est sur le domaine privé Et pour le rendre public, il faut qu'on essaie de trouver des incitatifs, comme l'inclusion d'un tel projet dans la contribution que les promoteurs doivent verser aux fins de parc ou dans le calcul de la volumétrie du bassin exigé pour recueillir les eaux pluviales, suggère-t-il. Essentiellement, on a créé un parc ici. C'était un jardin sur un toit ouvert à tous. Un texte de Valérie Simard paru le 26 septembre 2025 dans La Presse.
Trouver le temps de penser. Un texte de Dr. Annie Genois, paru le 8 octobre 2025 dans La Presse. La Dr. Annie Genois est médecin à Montréal et s'intéresse aux enjeux sociaux et environnementaux. Elle nous invite à réfléchir à tous ces petits gestes faits par automatisme ou imitation, apparemment anodins, mais destructeurs par leur accumulation. On pense souvent que le mal se cache dans l'exceptionnel, incarné par des figures monstrueuses ou des événements hors du commun. Mais la philosophe Hannah Arendt a montré que le danger peut aussi naître du quotidien, dans l'absence de réflexion et dans le conformisme. Son concept de « banalité du mal », formulé lors du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, reste d'une actualité troublante. Eichmann n'était pas un monstre idéologique. Il était un petit fonctionnaire docile, ordinaire, qui suivait les règles et répétait les gestes sans réfléchir aux conséquences. Le mal ne résidait pas dans des actions diaboliques, mais dans l'absence de pensée ou de remise en question. J'ai toujours trouvé ce concept fascinant, car il nous confronte au potentiel destructeur en chacun de nous, et il s'applique particulièrement bien au changement climatique. Comme il serait plus simple, presque apaisant, de brandir un épouvantail responsable de la majeure partie de la dégradation de notre planète, une corporation, un gouvernement. C'est plus confortable quand tout paraît noir ou blanc, avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Rappelons-nous qu'en 1989, le pétrolier Exxon Valdez avait déversé 11 millions de gallons de pétrole au large de l'Alaska, une catastrophe environnementale qui a marqué l'imaginaire. Pourtant, une étude du National Research Council a révélé que la pollution pétrolière dans les eaux côtières nord-américaines venait en grande partie de nos gestes quotidiens, huile de voiture, de tondeuse, etc., rejetées dans la nature. Additionner ces petites fuites équivalent à une marée noire de type Exxon Valdez, tous les 8 mois. Voilà la puissance de nos gestes banals et la preuve que le danger vient autant de l'ordinaire que de l'exceptionnel. Notre mode de vie. Pensons au rêve de la grande maison unifamiliale, symbole de réussite et de sécurité. Personne ne souhaite sciemment nuire à la nature en reproduisant ce modèle. Pourtant, ce modèle gruge nos terres agricoles et multiplie les déplacements en voiture, le transport routier représentant 31% des émissions de gaz à effet de serre de la province. Ce mode de vie est devenu si banal que nous ne voyons plus son absurdité écologique. J'ai pris l'exemple de l'étalement urbain, mais la remise en question s'applique à toutes les facettes de notre mode de vie. Et je ne veux pas culpabiliser les individus pour leurs choix, mais rappeler l'importance de s'arrêter, de réfléchir, de se poser des questions individuellement et collectivement. Peut-être que plusieurs réaliseraient qu'ils ne veulent pas forcément de leur propre trou d'eau dans la cour, mais plutôt des rues où s'intégrerait une piscine pour le voisinage, une déclinaison du modèle nordique qui combine logements privés et équipements collectifs. L'exemple est anecdotique, mais il illustre une idée plus large, celle de réinventer notre vivre ensemble. Un des freins au changement est que nous associons souvent confort matériel et bonheur. Nous croyons qu'avoir toujours plus grand, plus luxueux, plus nombreux, nous mènera à l'épanouissement. Réduire signifie-t-il forcément se priver, sacrifier une partie de notre expérience humaine? Eh bien, les recherches en psychologie démontrent que non. Je pense ici au cours sur le bonheur donné par Laurie Santos, professeur de psychologie à l'Université Yale, qui déboulonne plusieurs mythes à ce sujet. Un de ces constats est que plus nous sommes matérialistes, plus nous risquons d'être malheureux avec le temps. 3 salles de bain et 2 VUS, mais pas une miette de bonheur en plus. Sachant que nous avons notre part de responsabilité, que changer de mode de vie n'aura pas d'impact sur notre bonheur, sautons et ayons le courage de douter et de remettre en question notre mode de vie. Penser, c'est interrompre l'automatisme. Interrompre l'automatisme de ces millions, voire milliards de gestes banals qui s'accumulent. Mais pour se remettre en question, il faut créer de l'espace pour réfléchir, et ce n'est pas toujours facile. Pourtant, nous vivons dans une société remplie de commodités où nos besoins de base sont largement comblés. En théorie, nous devrions avoir plus de temps que jamais. Mais, paradoxalement, nous courons toujours comme prisonniers d'un nouvel esclavage, celui de la culture de performance qui valorise le fait d'être toujours occupé, productif. Pensez, une perte de temps. D'autre part, les réseaux sociaux nous distraient et nous comparent en continu, transformant nos choix en réflexes d'imitation. Comment réfléchir à nos modes de vie si nous n'avons plus une minute de silence intérieur, plus un espace pour la distance critique? Il ne faut pas arrêter de penser à notre ordinaire. Penser n'est ni un luxe ni une perte de temps. Si le pire advient, quand nous cessons de penser, alors le meilleur devient possible dès que nous retrouvons ce courage de penser. C'était « Trouver le temps de penser », un texte de Dr. Annie Genois, paru le 8 octobre 2025 dans la presse.
De Londres à Paris, une climatologue québécoise éclaire les décideurs européens. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 24 août 2025 dans Le Devoir. Corinne Lequéré n'a aucun doute. L'humanité dispose déjà de tout ce qu'il faut pour réduire rapidement ses émissions de carbone. Depuis près d'une décennie, cette climatologue québécoise, une sommité dans son domaine, citée plus de 80 000 fois par ses pairs, orbite autour des hauts cercles du pouvoir, en France et au Royaume-Uni, pour accélérer l'action climatique. J'essaie d'aider les gouvernements à prendre les mesures les plus ambitieuses possibles, mais toujours dans le cadre d'un plan à long terme, explique Mme Lequéré, 59 ans, de passage au Québec ces jours-ci pour voir sa famille et recevoir un doctorat honorifique de l'Université de Montréal. Attablée dans un café de la métropole, celle qui habite en Europe depuis 1996 ne mâche pas ses mots à l'endroit du Canada. Le pays hésite trop dans la transition énergétique. Il va manquer le coche pendant que la Chine consacre 10 % de son économie aux énergies renouvelables. Le Québec fait un peu mieux, mais les progrès demeurent trop lents par rapport à des pays européens comparables, surtout dans le contexte où, depuis 2 ans, les technologies de l'électrification connaissent un essor phénoménal, souligne l'influente chercheuse. Il faut dire que Mme Le Quéré est aux premières loges des gouvernements les plus dynamiques sur la scène climatique mondiale. En 2018, le président français, Emmanuel Macron, l'a nommée à la tête du Haut Conseil pour le climat, un organisme indépendant chargé d'évaluer l'action publique française en matière climatique. Elle l'a présidé jusqu'en 2024. Durant ces 5 années, ce comité, c'est vraiment ce qui a dominé ma pensée, explique-t-elle. Des résultats encourageants ont été obtenus. En 2023, les émissions françaises de gaz à effet de serre ont chuté de 5 %. La climatologue n'adhère pas au cynisme ambiant à l'égard de la classe politique. La plupart des décideurs politiques que j'ai rencontrés veulent bien faire, dit-elle dans un français bien québécois qui lui a déjà valu des sourires lors d'une présentation devant M. Macron et ses ministres. Pour que ses conseils résonnent aux oreilles des décideurs, elle sait comment s'y prendre. Les ministres ont besoin des fins détails. Quelle est la disponibilité des technologies? Combien ça va coûter? Qui va payer? Énumère-t-elle. De l'autre côté de la Manche, après avoir conseillé le premier ministre David Cameron, Mme Le Quéré est devenue membre, en 2016, du Climate Change Committee, CCC, qui conseille le gouvernement britannique en matière d'action climatique. Là-bas, les émissions de gaz à effet de serre ont fondu de moitié depuis 1990. L'économie de demain au Royaume-Uni, c'est une économie décarbonée et électrique, indique avec enthousiasme la citoyenne britannique qui habite Norfolk, où elle est professeure à l'Université d'East Anglia. Le CCC, la référence mondiale pour ce type de comité, est doté d'une 40aine d'analystes. Peu importe le parti au pouvoir, Downing Street a toujours adopté les plafonds d'émissions recommandés par le comité. Le carbone et l'océan. Corinne Le Quéré a grandi à Gatineau, auprès d'un père originaire de France et d'une mère québécoise. Sa famille, indépendantiste, passait beaucoup de temps en nature, à profiter des lacs et de la forêt. Jeune adulte, Corinne envisageait de devenir enseignante d'éducation physique, mais ratant la date d'inscription d'une journée, elle s'est plutôt retrouvée en physique à l'Université de Montréal, ce qui allait donner son envol à sa formation scientifique. La physique, c'est le pilier de ma manière de penser, juge-t-elle aujourd'hui, reconnaissante envers son alma mater. Ayant attrapé la piqûre de la science, elle a ensuite poursuivi des études en sciences atmosphériques et océaniques à l'Université McGill, achevée en 1992. Puis, elle a travaillé comme assistante de recherche à l'Université de Princeton, auprès de Jorge Sarmiento, un géant de l'océanographie. Madame Le Quéré a développé dans son laboratoire un modèle servant à calculer l'absorption de carbone par les océans. Elle a ensuite décroché son doctorat à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, en 1999. Au début des années 2000, elle a découvert que l'océan Austral, qui ceinture l'Antarctique, perdait de son potentiel à absorber du carbone de l'air à cause des changements climatiques. Les vents, fortifiés par le réchauffement, accélèrent la remontée des eaux profondes riches en carbone, ce qui rend la surface moins apte à avaler le CO2 atmosphérique. Un cercle vicieux. Heureusement, selon les données les plus récentes, le rétablissement de la couche d'ozone renverse une partie de cet inquiétant phénomène. En entrevue, Mme Le Quéré se montre sérieuse, mais chaleureuse. Elle n'est pas pessimiste. Elle constate que les pires scénarios climatiques, les 5 degrés Celsius de réchauffement envisagés au début de sa carrière, sont désormais improbables. Une 20aine de pays industrialisés diminuent leurs émissions, tout en ayant une économie vigoureuse. Il demeure que la planète n'est pas à l'abri de certains points de basculement, qui pourraient entraîner une réorganisation abrupte et irréversible d'un aspect du climat mondial. « Ça m'inquiète beaucoup, avoue-t-elle. Une transition de la forêt boréale vers un régime de feu très rapide est l'un des basculements redoutés. » Pendant que l'humanité s'efforce de profondément réduire ses émissions, il est aussi absolument essentiel qu'elle commence à capter et à séquestrer du carbone atmosphérique, croit Mme Le Quéré. La reforestation peut jouer un rôle, mais ne pourra jamais être une solution universelle. Les arbres plantés peuvent brûler et ils occupent de l'espace au détriment de l'agriculture. D'autres options, qui reposent sur le stockage du CO2 atmosphérique dans le sous-sol et dans l'océan, sont aujourd'hui en plein développement. Dans quelques décennies, elle pourrait compenser les émissions de l'aviation et de l'agriculture. Difficile à faire descendre à zéro, indique la scientifique. Certains militants écologistes, technophobes, grincent des dents en entendant de telles propositions. Madame Le Quéré, qui se considère comme très pragmatique, cherche l'équilibre. Elle soutient tout autant la sobriété énergétique que les véhicules électriques. Il y a beaucoup de militantisme pour le climat qui n'est pas toujours utile, soutient-elle. Ces gens ont de bonnes idées, mais ce ne sont pas des idées qu'on peut mettre en œuvre. Elle croit que le rôle d'un gouvernement, c'est de mobiliser les acteurs pour que les investissements se fassent au bon moment dans l'industrie. Au Canada, on ne pourrait pas dire demain qu'on arrête d'exploiter le pétrole. Ça ne passerait pas. L'économie en est trop dépendante. Le pays doit planifier à long terme l'évolution de son économie en s'assurant que les gens concernés par les transformations ont un avenir. La sortie du pétrole ne peut être improvisée, elle doit être planifiée. Et tant mieux si l'industrie pétrogazière essaie de réduire ses émissions en cours de chemin. Mais il faut arrêter de parler de pétrole vert, prévient-elle. Vers la carboneutralité familiale. Tout le poids de l'action climatique ne repose pas sur les épaules de l'individu. Un système entier est en cause. Mais l'individu ne peut pas non plus se défiler devant ses responsabilités, selon Mme Le Quéré. À un moment donné, il faut y faire face. La climatologue franco-canado-britannique trouve qu'il y a trop de culpabilité dans l'air, mais aussi trop d'échappatoires. Personnellement, elle veut que ses bottines suivent ses babines. Pour ce faire, la scientifique se consacre à un projet commun, rendre sa famille carboneutre. Déjà, elle se rend au travail à vélo, conduit un véhicule électrique et ne mange presque pas de viande. Après avoir installé des panneaux solaires sur son toit, elle projette de se procurer une thermopompe électrique pour chauffer sa résidence. Cela dit, le poste le plus important de son bilan carbone est sans conteste l'avion qu'elle prend pour aller voir sa famille au Québec et sa fille à New York. C'est mon gros point faible, admet-elle. Pour équilibrer son bilan, elle a acheté en 2024 une terre agricole abandonnée non loin de chez elle, à Norfolk, qu'elle est en train de transformer en forêt. Sur 3 hectares, elle a planté 1 000 arbres, érables, chênes, ormes, cerisiers, pommiers, poiriers. Je dois dire que c'est un plus gros projet que ce que j'imaginais. Mais c'est le fun, c'est très, très, très valorisant de planter des arbres. Maintenant, on attend qu'il pousse. C'était De Londres à Paris. Une climatologue québécoise éclaire les décideurs européens. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 24 août 2025 dans Le Devoir.